Le journal présenté par Diana Dacosta.
Bonsoir. Début de semaine compliqué pour la piscine de Tramelan. L'établissement a été victime d'un cambriolage la nuit dernière et il n'en est pas à son premier, vous l'entendrez. Fermeture jusqu'à nouvel avis. Marina Zuber quitte le navire. L'élue prévotoise du Parti Socialiste Autonome vient d'annoncer sa démission du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois. Son nouveau cap, les élections jurassiennes. L'euro féminin séduit le public suisse et remplit les stades. La pionnière du football helvétique, Madeleine Boll, savoure pleinement l'événement, sa réaction dans notre page sportive. Météo, des gouttes sont encore attendues ce soir et cette nuit. Demain, temps variable avec de la pluie, surtout entre la fin de matinée et le milieu d'après-midi. La fraîcheur s'impose pour la saison avec des maximales entre 17 et 18 degrés. Nuit agitée à la piscine de Tramelan, l'infrastructure a été victime d'un cambriolage. Face à l'ampleur des dégâts, la commune a été forcée de fermer temporairement les portes de l'établissement. Les précisions d'Olivier Zano.
Sur place, les dégradations sont importantes. Tout le contenu de la caisse a été vidé, les postes radio volés, rapporte le journal du Jura. Résultat, la sécurité des baigneurs ne peut plus être garantie. La police scientifique était encore sur place ce lundi pour tenter d'identifier les auteurs. Le sort semble s'acharner sur la piscine du château puisque c'est au moins la cinquième fois qu'elle est victime d'un cambriolage, explique André Ducommun, conseiller municipal en charge des infrastructures et du sport. Si une fermeture du lieu n'est pas envisageable, il faut une réaction rapide et réfléchie, selon les autorités. Autre défi, la canicule récente a provoqué une affluence record, ce qui a forcé l'établissement à limiter l'entrée à 1800 personnes et à engager des agents de sécurité supplémentaires. La commune réfléchit aussi à rendre le parking payant pour éviter une surcharge.
La piscine du château à Tramelan pourra rouvrir dès que la sécurité des visiteurs pourra être garantie, autrement dit, dès que les postes radio seront à nouveau fonctionnels. La question jurassienne est close, il est temps pour Marina Zuber de tirer sa révérence. La prévotoise a annoncé aujourd'hui son départ du Grand Conseil, du Conseil du Jura bernois. Sa démission des deux institutions sera effective le 30 septembre prochain. En vue du transfert de Moutier, le mandat de la socialiste autonome prendra fin automatiquement le 31 décembre. Un départ du Grand Conseil à seulement 3 mois de délai peut donc interpeller. Marina Zuber s'explique.
J'aimerais donner l'opportunité à une personne en fait de reprendre mes sièges et puis de pouvoir un peu exercer dans ces différents cénacles avant d'être éventuellement réélue. Donc une personne qui serait candidate aux élections cantonales bernoises 2026. Et puis l'autre raison, c'est que moi je serai en liste pour le Parti socialiste au Parlement jurassien. Donc je trouvais aussi plus élégant en fait de laisser ma place. Je pense qu'il faut savoir se retirer aussi au bon moment puis laisser la place à quelqu'un d'autre.
Est-ce que c'est une manière aussi symbolique peut-être de marquer votre rupture avec les institutions bernoises ?
Oui, forcément. Donc ma législature, je savais qu'elle avait un petit côté historique. Elle prendrait fin en fait avant la fin de la législature. Ça marquait justement le transfert des Moutiers dans le canton du Jura. Moi qui me suis énormément battue pour cette question-là, ça met aussi un point final à la question jurassienne. Et puis de le faire un petit peu en avance, bah, ça montre que forcément nous à Moutier, on est plutôt tourné vers le transfert et puis qu'il faut laisser sa place à quelqu'un qui aurait une vraie implication au sein du canton de Berne et puis ça sur le long terme.
Marina Zuber avec Estelle Herrmann. Reste à savoir désormais qui prendra la place de l'élue prévotoise à Berne, car les viennent ensuite sont de Moutier. Cela ne ferait pas sens pour eux de rejoindre le Grand Conseil pour une seule session. Des discussions sont en cours entre le PSA et le PS Grand Chasseral. Pour ce qui est du Conseil du Jura bernois, elle sera remplacée par un membre du PSGC. Et à quelques mois du transfert de la cité prévotoise, un nouvel écart se creuse entre Moutier et la Couronne. 7 des 9 communes membres du conseil intercommunal du Grand Val rejoignent l'action jeunesse régionale basée à Tramelan. Les jeunes de Crémines, Ailay, Échère, Grand Val, Perfit et Roche ne pourront donc plus se tourner vers le CEJAC, le service de la jeunesse prévotoise. La JR deviendra le plus grand centre d'animation jeunesse du Jura bernois dès 2026. Il faudra donc trouver un nouveau véhicule, mettre la main sur un local et engager plus de personnel. Les détails de Pierre-Alain Basso, animateur responsable de la JR.
Le budget qui a été mis en place et qui a été proposé et accepté par l'Assemblée Générale prend en considération le fait que ces nouvelles communes auront des prestations spécifiques. Pour nous, ce qui était important, c'était véritablement de n'enlever aucune prestation sur les communes déjà membres de l'Action Jeunesse Régionale, c'est-à-dire que ce n'est pas un transfert de charges, mais c'est vraiment des choses qui ont été réfléchies pour pouvoir proposer du plus à l'ensemble des communes. Donc actuellement, il y a 19 animations mobiles qui sont proposées sur l'ensemble de l'année, avec un deuxième véhicule et du personnel supplémentaire supplémentaire dès 2026, on va proposer plus d'animation mobile. Donc les communes actuelles toucheront aussi de temps en temps une visite supplémentaire, ce qui est déjà plutôt bénéfique pour elles. Et puis après, bah, le personnel permet aussi d'avoir une plus grande équipe, des compétences agrandies et puis surtout, on le souhaite, un accueil favorisé pour l'ensemble des jeunes.
De leur côté, Belpraon et La Schult ne suivent pas le mouvement. Elles sont libres d'organiser ou non des animations sur leur territoire. Le tronçon autoroutier entre les jonctions de Bienne-Nord et les Champs de Bougeant sera fermé partiellement de nuit pour travaux. La voie descendante de la 16 en direction des Champs de Bougeant sera inaccessible lundi et mardi prochain, 14-15 juillet, de 21h à 5h. Aux mêmes heures, les 16 et 17, c'est la voie montante en direction de Delémont qui ne sera plus accessible. Les usagers seront déviés par la route cantonale. À noter que ces travaux peuvent être modifiés, annulés ou reportés en cas d'intempérie. Tempête soudaine, pluie diluvienne, canicule, les événements en plein air doivent s'adapter à des conditions météo de plus en plus extrêmes, à l'image de la tempête du 15 juin qui a frappé la Suisse romande. À Bienne, comme à Neuchâtel, certains festivals ont subi de plein fouet la violence des éléments. Estelle Hermann s'est penchée sur la résilience du milieu.
Le 15 juin n'est pas le premier événement naturel à compliquer la vie des organisateurs de manifestations. L'année passée, par exemple, l'Imérial avait interrompu son programme dans l'après-midi sous la menace d'un orage de degré 4, voire 5, annoncé par Météo Suisse. Une menace qui ne s'est finalement pas confirmée. Les organisateurs se sont servis de cette expérience pour peaufiner leur édition 2025. Ils ont depuis développé un concept d'évacuation précis et mis à jour leur règlement de sécurité. En 2019, le Lake Life Festival a vécu lui aussi une première soirée mouvementée. Un violent orage s'est abattu sur l'événement biennois. Les festivaliers, certains réfugiés sous la grande tente, ont dû évacuer les lieux. Le co-organisateur Lucas Hall assure avoir tiré des leçons de cette expérience.
C'est un petit peu le thème de la communication à l'interne, mais aussi avec les autorités, avec la police, les ambulances et tout ça. Là, on a arrivé à coordonner et puis planifier un petit peu mieux avec les partenaires. Et puis je crois que c'est surtout sur thème des communications avec les autorités qu'on a adapté un petit peu notre concept d'évacuation pour l'avenir.
À l'heure où ces phénomènes météorologiques se multiplient et s'intensifient, les manifestations sont-elles prêtes à y faire face? Elles ont en tout cas des outils à disposition pour réagir en cas de pépin. D'après Mathieu Vouga, administrateur de la Casa Choc et membre du comité roman de PEDZI, l'association fêtière des clubs et des festivals.
En 2024, on a fait une rencontre interfestival sur les risques météorologiques et on travaillait avec l'entreprise Ichou, l'Institut Suisse de Sécurité Urbaine Événementielle et Météo News pour justement donner des clés au festival de comment fonctionnent les phénomènes météorologiques, comment fonctionne une procédure d'urgence, quelle est la gestion des incertitudes, comment savoir comment ça fonctionne et tous les enjeux de communication durant la gestion de l'alerte météo mais aussi après la gestion de celle-ci. En fait, ils sont de plus en plus prêts à réagir. En fait, les événements deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Donc, tous les festivals se rendent de plus en plus compte qu'ils ont besoin, que ça devient nécessaire justement d'avoir en place des procédures, d'avoir la compréhension, de pouvoir savoir quoi faire et de pouvoir être le plus réactif et d'être le plus safe pour les gens qui participent à ces événements.
Auderse et compagnie est actif dans la location de matériel comme les halles cantines. L'orage du 15 juin, le responsable de l'entreprise située à Songsbo l'a vu de près. Un arbre de 25 mètres s'est abattu sur l'une de ses tentes à Bienne. Pour lui, personne n'est à l'abri de dégâts quand il est question de catastrophes naturelles. Mais Claude Auderse explique les consignes de sécurité qu'il donne aux organisateurs d'événements en cas de rafale.
Au niveau des Alcantines, quand on soupçonne l'arrivée d'un orage, on donne des consignes de bien fermer toutes les bâches latérales pour que le vent ne puisse pas entrer. Souvent, les incidents connus, c'est souvent une bâche qui a été ouverte, le vent a pu s'infiltrer. Les tentes ont une telle envergure au niveau de prise au vent qu'on ne va juste absolument rien faire une fois que c'est fait. Donc, l'important, c'est ce qu'on leur dit de faire. Et malheureusement, tout le monde n'écoute pas.
À préciser qu'en cas de dégâts matériels, il y a un phénomène naturel. C'est le fournisseur qui prend les coûts en charge. L'assurance entre en compte à partir d'une certaine puissance de vent au-delà des 80 km/h. La vigilance reste aussi de mise quant à la fixation des tentes.
Le dossier d'Estelle Hermann sur le défi des organisateurs de festivals de la région face au dérèglement climatique. Les frais à charge des commerçants lors de transactions avec l'application Twint sont trop élevés et il y a un abus de position dominante sur le marché. Avec ces deux arguments, l'association des détaillants suisses a déposé aujourd'hui une plainte auprès de la commission de la concurrence, la Comco. Les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
La Swiss Retail Federation, qui est l'association des détaillants suisses, a donc saisi la Comco, affirmant que l'application de paiement Twint enfreint le droit suisse des cartels. Il y aurait des accords de concurrence illicites entre les banques propriétaires de Twint. Ce prétendu abus de position dominante a pour effet que les frais des transactions avec Twint seraient trop élevés et pèseraient trop sur les commerces de détail ou les restaurants. Twint facture en principe une commission de 1,3% et d'éventuels frais fixes par transaction. C'est un gros succès en Suisse. L'an passé, 5 millions de personnes l'utilisaient pour près de 800 millions de transactions. Twint appartient aux banques UBS, Raiffeisen, aux banques cantonales vaudoises et zurichoises, à la société boursière SIX et aux services de paiement Worldline. Les propriétaires de Twint contestent les accusations et disent attendre éventuelle enquête de la Comco avec sérénité, affirmant agir en toute transparence et constatant que les paiements par Twint ne sont pas plus chers que les paiements par carte. La plainte est une dénonciation, elle n'est pas accompagnée en cas de condamnation d'une demande de dommages et intérêts.
Le canton de Zurich ne veut pas de chirurgie de changement de sexe pour les moins de 18 ans. La directrice de la santé, Nathalie Rickli, demande à la Confédération d'interdire les interventions irréversibles pour mieux protéger les personnes mineures. Une telle interdiction est déjà en vigueur en Grande-Bretagne ou en Finlande, mais en Suisse, il n'y a pas de règles claires, ont souligné aujourd'hui devant les médias les représentants de la direction de la santé du canton de Zurich. Bilan dramatique au Texas après des inondations dévastatrices. Plus de 80 personnes sont mortes ce week-end, dont 27 enfants et moniteurs de camp d'été chrétiens sur les rives du fleuve Guadalupe. Les secours sont toujours à pied d'œuvre, appuyés par des hélicoptères et des drones. Le président américain Donald Trump a décrété l'état de catastrophe et prévoit de se rendre sur place. À noter que le bilan pourrait s'alourdir davantage.
À l'écoute d'RGB, il est 18h12.
RJB Sport.
Un euro féminin plein de satisfaction. La compétition européenne de football se tient depuis presque une semaine dans notre pays. Le public répond présent dans les différents stades de Suisse. Madeleine Boll, la pionnière du ballon rond helvétique, est très enthousiaste par rapport à cet événement. Elle était l'invitée de l'UEFA hier soir lors de la rencontre entre la Norvège et la Finlande à Sion. Madeleine Boll affichait un large sourire dans les travées de tourbillon.
Oui, moi je pense. Pourquoi ? Parce que j'étais avec l'équipe qui a préparé, mais d'une façon large. Je viens de voir la responsable qui m'a dit, mais c'est magnifique. Vraiment, les gens qui ont porté le souci, parce que c'est une petite équipe, ils sont vraiment contents. Alors donc, c'est pratiquement plein les stades. Hein. Donc, c'est déjà une victoire. Et puis les gens, ils sont contents, continuant comme ça. Hein. Quand j'étais à Bâle, et puis de voir tout ce monde, c'était à presque avoir les larmes aux yeux, de voir tout ce monde pour dire, mais non, je rêve pas, c'est pas pour les hommes qui viennent, ils viennent pour le foot féminin. Et ça, c'était un beau cadeau.
Et des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. Belinda Bencic figure pour la première fois en quart de finale à Wimbledon. La joueuse de tennis singaloise a vaincu Ekaterina Alexandrova cet après-midi au quatrième tour. Elle s'est imposée 7-6-6-4 devant la Russe sur le gazon du Grand Chelem londonien. Belinda Bencic fera figure d'outsider en quart de finale. Elle se mesurera soit à la Russe Mira Andreeva ou à l'Américaine Emma Navarro. La victoire de la troisième étape du Tour de France s'est jouée au sprint. Tim Merlier s'est imposé à Dunkerque après 178,3 km d'effort. Le cycliste belge s'est imposé devant l'Italien Jonathan Milan et l'Allemand Phil Bauhaus. Mathieu Van Der Poel conserve le maillot jaune. Cette étape a été marquée par l'abandon de Jasper Philipsen. Le sprinter belge a chuté à 60 km de l'arrivée. Il avait remporté la première étape samedi à Lille. Et on termine sur cette sanction pour l'équipe suisse U23 d'escrime après son comportement lors d'une remise de prix en Estonie. Les jeunes athlètes accusés d'avoir tourné le dos à l'équipe israélienne pendant l'hymne en avril dernier ont été avertis par Swiss Sport Integrity. Ils devront suivre un cours sur l'éthique, effectuer du bénévolat et payer une partie des frais de procédure, a annoncé la fondation aujourd'hui. Les escrimeurs, eux, regrettent leurs gestes et affirment leur attachement aux valeurs sportives. RJB, il est 8h15, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée.
RJB.